la jeune fille aux souliers. Élise s'en souvient. Son grand-père le lui répétait assez souvent. Il faut toujours frotter l'arrière des souliers parce que lorsqu'on croise des gens, c'est votre visage qu'ils regardent pour vous dire bonjour. Et ce n'est que lorsque vous êtes passé qu'ils se retournent pour vous juger. Gare aux talons alors. Elle étale la pâte colorée avec une brosse, s'appliquant à ne projeter aucune particule grasse autour d'elle. Elle insiste sur les plis et les coutures, dénouant les lacets que les impatients ou les paresseux n'ont pas pris la peine de défaire. Elle aime sentir le cuir s'assouplir et commencer à briller avant même qu'elle ait amorcé le travail de lustrage. La peau est comme la terre. Elle a besoin de se nourrir et est assoiffée si on la laisse se dessécher sous la poussière des villes. Il est vrai que la boue et la terre des campagnes ne font pas meilleur ménage avec elle. Mais souvent, l'osmose de sa couleur avec celle des champs ressemble à un pardon accordé d'office, tant le paysan a le souci d'un gros godillot solide, plus que joli. Au contraire, le citadin se devrait d'entretenir bottes et bottines, souliers et sandales, socques et escarpins, au nom de cette incroyable coquetterie qui le pousse à placer ses pieds dans les formes et les teintes les plus excentriques que jamais imaginées. Élise travaille sans relâche. Elle a aligné devant elle toutes les paires de chaussures qu'elle doit briquer. Il faut que tout brille, et elle fait de cette obligation son affaire personnelle. Petite, elle avait une prédilection marquée pour les spartiates, ces sandales faites de lanières de cuir croisé, dont l'origine remontait à des temps si lointains qu'elle se plaisait à les imaginer aux pieds des hommes préhistoriques. Peut-être en avait-elle vu des représentations naïves dans un vieux livre d'histoire. Il lui avait fallu découvrir plus tard combien la préhistoire est antérieure à l'histoire pour accepter l'idée qu'il s'agissait là d'une hypothèse bien peu probable. Elle avait alors jeté son dévolu sur des chaussons de danse demi-pointe, roses et si fins qu'ils en paraissaient translucides. Mais sa mère ne pouvait tout simplement pas concevoir qu'elle pût désirer ce dont elle n'avait absolument pas besoin. Dans le secret de son cœur, Élise ne rêvait pourtant que tutus et arabesques. Et, quoiqu'elle ne s'en soit jamais ouverte à personne, elle collectionnait les comptes rendus de spectacles qu'elle trouvait dans les journaux auxquels ses parents étaient abonnés. L'argent ne faisait pas défaut dans la famille. Seulement, il n'était pas question, pour les nombreux frères et sœurs d'Élise, de vivre comme des princes nés avec une petite cuillère en argent dans la bouche. Très tôt, tous avaient été habitués à utiliser les vêtements des aînés. La mère rallongeait jupes et pantalons, puis les raccourcissait en fonction des besoins. Elle tricotait et détricotait avec une inventivité folle qui ravissait les plus jeunes et accablait les plus âgés, ulcérés de voir circuler les mêmes coloris ringards qui ne pouvaient rivaliser avec les sweatshirts de l'époque. Parents et enfants partaient au ski une fois l'an, ce qui représentait un pouvoir d'achat non négligeable. Mais ces vacances laissaient probablement plus de traces chez les adultes que chez les enfants, auxquels le cadre importait moins que le contenu des loisirs. La station choisie péchait par son manque d'équipement, et tous étant débutants, il leur fallait attendre de trop longs moments les pieds gelés dans la neige qui ne cessait de tomber, et dont le charme s'épuisait très vite par -15 degrés. Le soir, les parents racontaient leurs propres exploits à des enfants grognons, et le père n'avait cesse de remarquer que, tout jeune, trop gâté, est définitivement corrompu. C'est ainsi que cessèrent les vacances familiales à la montagne. Au grand plaisir de tous, les parents confiant leur progéniture aux grands-parents pour partir seuls une bonne dizaine de jours par an. Élise soupire en attaquant la deuxième rangée de chaussures. Celle-ci commence par de petits mocassins de ville bleu marine. Elle pose une noisette de cirage et saisit sa brosse. La porte s'ouvre sur un grand gaillard. « Bonjour, Nick. Tu as déjà fini ?»«
Non, malheureusement. Dis-moi, les pompes du 18 sont prêtes ?»«
Il vaudrait mieux. Le client fait scandale et exige de les avoir immédiatement. »«
Le liftier m'a dit qu'il quitte l'hôtel dans l'instant. »«
Ce sont celles-ci. » Élise désigne une paire de derby.
« Je me demande toujours comment tu fais pour t'y retrouver avec toutes ces grolles devant toi. »
Élise sourit. « C'est ça justement ma mémoire. » Nick repart sur un clin d'œil.
« Ma mémoire à moi, c'est celle de mon portefeuille. Plus que 2 mois à ce rythme et je pourrais m'acheter l'appareil photo de mes rêves. »
« Et dans tes rêves, c'est quoi ton appareil photo ?
Un Leica avec… »« Oui, j'arrive !»
Bon, je te laisse, sinon sur ce coup, je perds mon pourboire.
Quoique de toute façon, le type du 18 n'a pas une tête à donner la pièce.
Élise reprend le lustrage d'une paire de talons aiguilles. Sous les passages répétés du chiffon doux, la teinte havane du cuir se réveille progressivement. Elle songe avec agacement aux mauvais traitements que la plupart des hommes et des femmes font subir à leurs souliers. S'il ne tenait qu'à elle, chacun apprendrait à s'occuper de ses chaussures comme il apprend à se brosser les dents. Elle ne voit aucune raison à la négligence presque systématique qui pousse la quasi-totalité de l'humanité chaussée à ne rien faire, ou, au mieux, pour les gens les plus fortunés, à confier ce travail à d'autres. En fin de matinée, Élise a terminé. Nick a franchi la porte 3 ou 4 fois encore, précédé du grand chariot sur lequel il pose les chaussures nettoyées afin de les remettre devant chaque porte de chambre. L'hôtel bat son plein depuis le début de la semaine et le restaurant affiche complet à la nuit tombée. Ce ne sont que robes du soir et queues de pie papillonnant dans le hall que traversent des éclats de rire coupants comme des aiguilles de verre. Élise n'a guère l'occasion de voir ni d'entendre. Elle part à l'heure où les doigts délicats des femmes s'emparent d'un quart de vitelle au-dessus de quelques coulis d'écrevisses nappant d'imperceptibles crêpes dentelles. Elle revient dès l'aube, quand les chambres sont encore closes sur des sommeils que le luxe des lieux ne peut pas soustraire aux cauchemars et aux rêves.
Il faut que je me secoue ce matin.
Élise se glisse doucement derrière la table massive sur laquelle s'alignent déjà tous les souliers de ville, accompagnés des numéros de chambre correspondants. Elle doit les astiquer en priorité. Plus tard, ce sera au tour des chaussures de sport. De nombreux clients s'adonnant à des activités nécessitant le port de tennis que ne saurait souiller la moindre ombre et qu'elle devra blanchir en ayant soin de ne tacher ni la semelle ni les lacets. Enfin, elle lustrera avec précaution de véritables bijoux de sophistication, rivalisant avec l'austère et somptueuse brillance de riches lieux vernis. Chaussures d'un soir, comme celles qu'elle portait avant cette déflagration monstrueuse qui la jetait à terre et lui arrachait pour toujours le droit de…
« Ça ne va pas, Élise ?»
Nick est devant elle, le sourcil froncé.
« Si, juste une mauvaise nuit.
C'est pourtant loin déjà tout ça, mais j'y reviens sans cesse encore.
Ses cris se sentent partout éclaboussés, et la lumière, cette lumière blanche qui t'arrache le regard. Tu es sûr que tu vas bien? Ne t'inquiète pas, Nick. J'ai seulement besoin de me débarrasser de bouts de sommeil un peu trop agités. Parfois, c'est plus dur qu'à d'autres moments. Nick est reparti. Elise a repris sa brosse et s'applique à la tâche. La fin de matinée traîne, morose. Elise range soigneusement son matériel, comme à l'habitude, et elle quitte la pièce. Tout le long du couloir, le bruit de son fauteuil roulant s'éloigne dans un chuchotement régulier. Françoise Chauvelier, 28 mai 2004.